cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Batia-Juilly.
Bonjour.
Vous publiez votre premier album chez Deutsche Grammophon, la prestigieuse maison Deutsche Grammophon, un album intitulé Echoes of Time. Alors un album, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il est un peu autobiographique ou quoi, mais le choix en fait des œuvres est quand même très lié à votre histoire, à votre parcours, tant personnel que musical. On peut dire que l'axe principal est le concerto pour violon numéro 1 de Shostakovich. On trouve d'autres pièces. Une œuvre de Cancelli, également du Ravopart, du Rachmaninov avec Hélène Grimaud. Je précise également que cet orchestre, l'orchestre qui vous accompagne, c'est l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par SAPK Salonen. Vous avez habité en Allemagne aussi longtemps, donc il y a plein de petites choses comme ça liées un peu à votre parcours. Est-ce que vous avez voulu en fait créer, construire ce projet justement autour de ce qui vous est arrivé jusqu'ici, j'allais dire?
Oui, un petit peu. D'ailleurs, toujours pour les enregistrements, j'essaie de trouver un sujet qui concerne moi aussi personnellement ou de la musique que j'aime particulièrement. Maintenant, Shostakovich, évidemment, c'était un compositeur vraiment très respecté en Géorgie quand j'étais toute petite. J'ai vécu 11 ans en Géorgie. Mon père, il est violoniste, il a donc quatuor à cordes, il a pratiquement joué tous les quatuors de Shostakovich et qu'il a répété chez nous à la maison. Donc, je pense que j'ai écouté cette musique pendant toute mon enfance, tous les jours. Oui. Et c'est pour ça aussi que Shostakovich était un compositeur qui était très proche à toute notre famille, parce que ma mère est aussi pianiste. Donc, maman, on a parlé beaucoup de lui, surtout parce que c'était un personnage vraiment important dans l'Union soviétique. Et pour tous les musiciens, c'était quelqu'un d'incroyable, surtout parce que bon, sa personnalité était déjà très, très complexe et très. Il était quelqu'un qui essayait toujours de s'exprimer dans sa musique et exprimer la douleur et la frustration du temps.
Ouais.
Et évidemment, pour moi, c'était très important de rappeler un petit peu ça ce que j'ai vécu quand j'étais petite.
Oui, c'est ce que j'ai dit, parce qu'il faut préciser que quand vous êtes partie de Géorgie, je crois que c'était au début des années 90.
Oui, c'est ça.
C'était un peu la période de transition. La Géorgie a retrouvé son indépendance en 91.
Oui.
Et donc sortait du communisme. Comment vous avez vécu toute cette jeunesse en étant certes jeune, donc consciente, mais peut-être pas totalement consciente? Comment ça se passait dans votre tête ces années-là? Comment se sont passées?
J'étais quand même assez consciente à cause du fait que mon père, il voyageait beaucoup dans l'Ouest. Il était membre du quatuor, donc c'était un quatuor très célèbre en Géorgie et c'était le seul quatuor qui avait le droit de partir de l'Ouest pour faire les concerts. Donc évidemment, moi, je savais par mon père comment c'était. Dans les pays libres, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'idée, évidemment, parce qu'on n'avait pas vraiment du rapport et du contact. Mes parents, ils m'ont éduqué, ils m'ont élevé avec pensée qu'un jour, ça allait se terminer, ce régime communiste, et que la Géorgie allait devenir indépendante. Et d'ailleurs, la Géorgie a toujours été un des peu pays dans l'Union soviétique qui se battait très fort contre ce régime. Donc on allait à l'école avec un uniforme et on était obligé aussi de porter un tissu rouge de pionnière et aussi,
hein.
Oui, une petite image de Lénine. Et quelque part, moi je savais toujours que c'était un petit peu ridicule parce que j'ai vécu quand même la fin du communisme. Et il y avait un jour, tout à coup, tout a changé. Toutes ces règles sont disparues et tout le monde avait le droit de dire ce qu'il pensait. Et c'était exactement là où j'avais 10-11 ans et où j'ai compris à quel point c'était un temps important. D'ailleurs, pour la Géorgie, c'était aussi une période très turbulente entre les gouvernements, changement des gouvernements, tout ça. Et c'était aussi une des raisons pourquoi on a dû quitter la Géorgie, malheureusement, après. Mais bon, je ne dis pas malheureusement, mais c'est simplement, c'était un temps très, très difficile pour tout le monde.
Oui, en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que la Géorgie est un peu un État à part. C'est vrai que, vu, j'allais dire, de l'autre côté, ici, c'est quand on disait, quand le bloc soviétique s'est écroulé, c'était plein de petits pays qui étaient tous pareils, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une géographiquement, au niveau de... Les Géorgiens ne sont pas, ne ressemblent pas aux, je ne sais pas, à d'autres, aux Ukrainiens, où c'est vraiment des choses assez diverses.
Ah oui, absolument. Les Géorgiens, ils ont complètement une autre culture. Ils viennent d'autres régions du monde que les Russes, par exemple. C'est pour ça que c'était toujours difficile de réunir ces gens-là et de les forcer de fonctionner ensemble. Oui, pour moi, c'était un sujet toujours très important.
Comment se passait justement votre éducation musicale à ce moment-là, entre l'aspect très strict que vous avez décrit, conservatoire, mais en même temps, j'imagine, vos parents, musiciens tous les deux, votre père qui voyageait, qui vous amenait peut-être de la curiosité, des choses autres que ce qu'on vous enseignait au conservatoire?
En fait, c'était lui qui était mon professeur, mon maître, jusqu'à on a quitté la Géorgie. Mmh. Et ce qu'il faisait, d'ailleurs, il m'amenait quand même quelques fois dans l'année en Moscou pour avoir d'autres avis. Il était très ouvert, d'ailleurs. Donc, il voulait absolument que je continue à étudier plus tard en Europe pour avoir une éducation européenne. Mmh. Et c'était aussi une raison principale de partir en Allemagne. Mmh.
Comment vous avez cette œuvre, donc ce concerto pour violon numéro 1 de Chostakovitch, comment vous l'avez, à quel moment vous l'avez découvert, et qu'est-ce qu'il y a des versions particulières qui vous ont marqué quand vous étiez toute jeune?
Le premier enregistrement que j'ai entendu de ce concerto, c'était par David Oistrakh. Évidemment, c'était la personne pour qui le concerto était écrit. J'ai eu beaucoup de chance pas vraiment étudier, mais avoir des conseils de la part de mon ancien professeur, Marc Lubotsky, avec qui j'avais étudié en Hambourg entre mes 13 et 15 ans. Je suis repartie à Hambourg quand j'avais 20 ans, quand j'avais commencé à étudier le concerto, et j'ai demandé simplement son expérience de cette œuvre, parce que lui, il était un des plus grands élèves de Oistrakh. Et donc, c'était pour moi vraiment un rapproche plus intéressant, un compositeur. Et évidemment, il a raconté plein d'histoires de Oistrakh même, comme ce qu'il avait vécu et les discussions entre lui et Chostakovitch, comment ils ont travaillé vraiment très, très proche sur ce concerto, comment Chostakovitch, il demandait l'avis chaque fois à Oistrakh, ce qu'il pensait, ce qu'il pouvait changer. Il y a même une histoire très drôle. En fait, à la fin du cadence, qui est très, très dur physiquement aussi, dans ces concertos, aujourd'hui, on retrouve une petite... un petit fragment dans l'orchestre, tout où le violoniste peut se reposer juste avant le quatrième mouvement, mais c'est 16 comment ça s'appelle, bars,
mesures.
Ces 16 mesures n'existaient pas avant, donc Oistrakh, quand il a joué pour première fois sans pause, le troisième mouvement plus les cadences et enchaîner le quatrième mouvement, il est retourné, il a dit à M. Shostakovich, C'est pas possible, j'arriverai pas. Il faut vous me donner une minute pour me reposer après cette cadence. Donc c'est vrai que c'est pratiquement pas possible d'enchaîner après cette cadence de 80 moments parce que ça, c'est physiquement tellement, tellement lourd.
Et comment vous êtes la première fois que vous êtes attaqué à ce concerto? C'était quand?
À peu près à 20 ans.
Quand vous. Une œuvre comme ça, ce concerto-là en particulier, quelle valeur vous lui donnez, vous, à titre personnel? Dans votre vision de votre instrument?
Je trouve que c'est un des plus forts concertos, surtout quand on fait cette expérience sur la scène avec l'orchestre pour première fois, on le sent. C'est souvent sur la scène qu'on voit si une œuvre est très, vraiment forte aussi pour la public, comme nous, comme les musiciens. Et par exemple, avec Shostakovich, je me souviens, la première fois que j'avais joué, c'était vraiment quelque chose qui était presque trop lourd pour l'esprit. Et à la fin, j'étais vraiment fatiguée comme jamais. Pas seulement physiquement, mais j'avais vécu beaucoup avec cette œuvre. Et ça montre simplement à quel point quel point cette œuvre a du douleur et des émotions intégrées et qui sont très très importants à dire. Mmh.
Comment vous avez travaillé justement par rapport à pour cette version avec l'orchestre de la radio bavaroise et Sapeka Salonen? Vous avez les préparatifs, comment tout ça s'est déroulé?
En fait, en même temps d'enregistrement, on avait des concerts aussi. Donc c'était une période très très intense. On se préparait pratiquement pour le concert et on a fait l'enregistrement à côté. Et cet orchestre, bon, c'est un des plus grands orchestres, je n'ai pas besoin de dire, c'est clair. Et d'ailleurs, c'était aussi un miracle que je peux enregistrer avec cet orchestre, un orchestre où j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, dont les musiciens.
Et c'est important, ça compte par rapport justement
Je trouve que oui. Parce que quelque part, on sent le soutien des musiciens aussi, surtout quand on enregistre. Évidemment, pour les concerts, c'est important aussi, mais pendant l'enregistrement, on doit répéter des endroits différents. Et c'est une procédure assez lourde pour tout le monde. Et donc, quand on a des amis dans l'orchestre qui sont là, qui sont prêts à donner le maximum, à mon avis, c'est un grand, grand avantage. Et je ne connais pas tellement d'orchestres où j'ai autant d'amis. Mais aussi, par rapport de Salonen, je dois dire que c'était vraiment une expérience unique de travailler avec lui. C'était la première fois. Mais j'avais l'impression qu'on n'avait pas besoin de trop parler, la musique parlait tout seul.
Quels sont justement vos rapports avec les chefs en général? C'est vraiment, vous avez travaillé, vous avez croisé le chemin de pas mal de grandes baguettes, Eskenazi, Schoenbach, Mazel, là, Salonen, etc. Comment ça se passe à chaque fois? J'imagine que chaque chose est différente, évidemment. Chaque rencontre, c'est une rencontre humaine avant d'être musicale, donc il y a toujours des... Mais vous êtes, quel rapport vous entretenez en général avec les... Avec les chefs.
C'est très, très différent. Donc, c'est difficile à dire.
No comment. Vous avez des bonnes et des mauvais souvenirs.
J'ai certains chefs qui sont vraiment mes favoris et avec qui j'aime particulièrement travailler. J'ai connu aussi des chefs avec qui j'aime moi travailler. Et d'ailleurs, moi, j'ai une famille, donc je ne peux pas me permettre d'être partie tout le temps et de jouer beaucoup trop de concerts. Donc, quelque part, quand je fais le choix, je regarde aussi qui est le chef simplement pas par rapport des qualités ou du niveau du chef ou de la carrière qu'il a fait. Simplement, l'expérience qu'on fait avec les chefs, ça peut être complètement différent de ce qu'il ou elle représente dans le monde musical. Et moi, j'ai aussi ce qui est très intéressant, c'est que j'ai fait des expériences très intéressantes avec aussi des jeunes chefs qui arrivent maintenant. Et je pense que c'est une période très intéressante où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes talentueux.
Il y a des jeunes chefs,
jeunes talentueux.
Lesquels, par exemple, vous ont marqué ou
par exemple, quelqu'un que vraiment, j'adore travailler, c'est Yannick Nézet-Séguin, mais bon, il est déjà très connu. Ouais. J'ai travaillé avec Alan Gilbert avant qu'il était devenu chef à New York, donc c'était déjà il y a presque 8-9 ans. Et je trouvais tout de suite que c'était quelqu'un de très, très brillant. Avant, c'était Sacario Ramo. Il avait juste commencé à diriger quand j'ai fait mon premier Sibelius dans le concours. Il avait 34 ans. Et là aussi, je sentis que c'était vraiment une expérience, surtout avec ses concertos, c'était tellement naturel. Et pour moi, la musique, ça représente quelque chose d'intuitif et naturel. Et si c'est possible de s'exprimer sur la scène et dire ce qu'on veut sans devoir trop travailler et simplement suivre sa intuition, je pense que c'est le plus grand bonheur.
Et dans les grands chefs, justement, quels sont vos souvenirs qui vous ont
le plus
marqué ?
Est-ce qu'il y a des souvenirs très, très positifs avec... déjà, par exemple, quelqu'un avec qui j'ai travaillé pour première fois l'année dernière, c'était Velsa Most. C'est un chef d'orchestre autrichien qui je trouvais très, très intéressant, aussi très différent des autres. Laurie Mazel, j'ai travaillé 10 ans. Maintenant, je vais travailler l'année prochaine. C'est quand même une énorme personnalité. Et avec des capacités de chef vraiment incomparables. Et aussi Zubin Mehta, par exemple, avec qui j'ai travaillé 2 fois. Ça m'a vraiment impressionné ce qu'il faisait. C'était tellement beau ce qu'il faisait, simplement. Il y avait tellement de force. Donc, évidemment, cette génération qui est encore là et qui nous donne tellement c'est simplement génial de les regarder, voir toutes les expériences musicales qu'ils ont eues sur la scène.
Alors donc sur cet album, Echoes in Time, Elissa Batiashvili, il y a aussi une œuvre de Cancelli.
Oui.
Donc comment sont faits justement le choix des œuvres satellites autour de ce concerto de Shostakovich, le choix de Cancelli, le choix de Arvo Pärt, ces pièces-là?
Oui, c'était évidemment pour entourer le grand concerto avec des œuvres de même époque, de ce bloc soviétique. Et Cancelli, c'était simplement pour représenter la Géorgie. Et cette œuvre que j'aime beaucoup, qui commence avec le chant, avec un enregistrement du chant. Et ça, je trouve toujours très magique, cette combinaison de la musique un peu nationale, un peu... folklorique. Et après ces violons qui viennent avec l'orchestre, donc c'est un mélange, un collage qui est très très intéressant. Et Arvo Pärt avec le Spiegel im Spiegel, qui est aussi un morceau avec beaucoup d'atmosphère, et ça représente aussi un petit peu la nostalgie qu'il a eue par rapport du temps, et il était obligé de quitter son pays. Et on a ajouté un morceau de la vocalise, la fameuse vocalise de Rachmaninov, et la valse de Shostakovich, qui était le côté un petit peu plus léger du disque, simplement aussi pour montrer que Shostakovich n'a pas toujours écrit de la musique lourde, mais aussi parfois vraiment de la musique légère.
Hélène Grimaud, vous l'avez rencontrée quand pour la première fois?
On s'est rencontrés il y a quelques ans après son concert, et ça faisait longtemps qu'on voulait jouer ensemble, mais c'était difficile, et je suis très heureuse qu'elle ait accepté cette idée de faire ce projet ensemble. Et en fait, c'était la première fois qu'on en travaillait ensemble. Donc, sur ce disque, il y a la première rencontre avec le chef, première rencontre avec le pianiste, mais j'espère que c'est plus ou moins réussi.
Comment vous avez dit tout à l'heure qu'on ressent surtout sur scène une œuvre, c'est en la jouant sur scène vraiment qu'on... Est-ce que c'est à ce moment-là finalement que vous décidez, vous avez des envies d'enregistrement, de vous dire voilà, cette œuvre, il faudra qu'un jour que je l'enregistre, ou pas, ça doit passer obligatoirement par ça? Vous avez quel rapport vous entretenez avec les disques en général, avec l'enregistrement?
Je trouve ça très important de ne pas enregistrer n'importe quoi, mais enregistrer vraiment des œuvres avec lesquelles on peut vraiment
s'identifier.
Merci. Et donc, mon premier disque, et c'était le concerto Sibelius, qui est un œuvre très important dans ma vie. Après, c'était Beethoven. Maintenant, c'est le premier disque chez Deutsche Grammophon, c'est le concerto Shostakovich. Évidemment, on ne pourra pas toujours enregistrer les concertos qui font partie de la vie. Aussi, il y a des œuvres qu'on enregistre parce qu'on aime certaines musiques. Mais je trouve ça quand même un avantage de trouver les morceaux avec lesquels on a un rapport spécial. Et pour maman, bon, c'était Shostakovich. Je ne sais pas exactement ce que ça sera la prochaine fois. Mais...
C'est ce que j'allais vous demander. Quel rapport, comment se déroulent vos rapports avec les compositeurs, avec les partitions? Est-ce que vous avez des phases? Est-ce que vous êtes très curieuse, à tout le temps chercher des choses? Comment ça fonctionne en fait en général? Que ce soit aussi bien pour les enregistrements que pour des choix d'œuvres pour les concerts.
Parfois, je suis très curieuse, je cherche les œuvres, mais ce n'est pas possible de faire ça toujours parce qu'il faut quand même garder le répertoire qu'on joue de toute façon. Donc, ce que j'essaye par contre de faire surtout sur les disques, c'est de mélanger des œuvres très connues avec des œuvres moins connues. Comme ça, je peux présenter ça dans un sujet, des œuvres que les gens connaissent moins, ils seront obligés aussi d'écouter un petit peu des choses pour faire connaissance avec d'autres musiques.
La musique contemporaine, c'est ça quelque chose qui fait partie. C'est oui. Essentiel pour vous qu'un interprète, un soliste, se touche à la musique de son temps et ne se contente pas uniquement d'enregistrer ou de jouer des répertoires du passé?
Oui, je trouve ça très important. On est vraiment...
C'est une mission, ça vous semble obligatoire d'une
oui.
certaine manière?
Oui. Ouais. Évidemment, on n'est pas obligé de jouer du tout.
Oui, non.
Mais on doit jouer quelque chose, on peut choisir. S'il y a quelque chose qui nous plaise, et il y a certainement des compositeurs qu'on trouve dans la vie avec qui on aime bien travailler. Et c'est par mon mari que j'ai appris qu'en fait, il fallait vraiment, vraiment. Non seulement soutenir les compositeurs, mais c'est soutenir soutenir la musique et les compositeurs. Et après, on allait avoir une relation très importante avec des compositeurs importants d'aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi faire le concerto de Lindbergh, par exemple, il y a quelques années. Et c'était une expérience fantastique parce que...
De discuter avec justement un compositeur, par exemple, c'est quelque chose de...
C'était encore une fois, c'était vraiment, on n'attend pas, mais pratiquement, on reçoit les partitions et après, on essaye de construire. Et si on a des questions, évidemment, on en parle, mais c'était un œuvre qui était déjà faite. Mais quand même, c'est quand on découvre pour la première fois pendant les répétitions un morceau et on ne sait pas exactement encore où ça va, mais après, quand on se retrouve avec les musiciens et on commence à comprendre la musique, c'est quand même quelque chose de très unique.
Thank you.
êtes né en Géorgie, vous avez grandi en Géorgie, après vous êtes parti en Allemagne, vous habitez en France. Toutes ces cultures différentes qui j'imagine, nourrissent votre musique. C'est un peu cliché à dire, mais c'est une réalité d'une certaine manière sans doute. Ça vous fait aujourd'hui, on est en 2011, je veux dire 2010, non c'est déjà 2011, ça vous fait repenser la façon dont vous voyez la musique à chaque fois, quand vous bougez, quand vous croisez, quand vous rencontrez, vous voyagez beaucoup parce que vous jouez avec des musiciens des quatre coins du monde, de différentes nationalités. Finalement, comment on garde ces racines, ce qu'on est à la base ? La Géorgie, tout ça, c'est quelque chose, c'est une quête permanente.
Oui, c'est pas facile. Mais la Géorgie, c'était mon enfance, donc ça va toujours rester. J'ai beaucoup de familles encore qui habitent en Géorgie, donc c'est toujours un endroit où je reviens et où je suis très heureuse de revoir ma famille et mes amis. Et l'Allemagne était un pays très important, évidemment, parce que c'est là où tout s'était passé. Maintenant, c'est la France, surtout parce que j'ai un mari français. Quelque part, il faut apprendre d'en profiter un petit peu de tout et apprendre aussi de se sentir partout bien. Et aujourd'hui, dans le monde où les gens bougent beaucoup, il y a beaucoup de mélange entre les nationalités, c'est très important, surtout pour les musiciens, d'un autre côté, de garder sa personnalité, d'un autre côté, être flexible. Et cette flexibilité, c'est dans la musique aussi très important. Par exemple, si on fait de la musique du chambre, si on n'est pas flexible, on ne va pas y arriver. Donc, pour moi, c'est aussi... j'apprends partout un petit peu. En Allemagne, j'ai appris beaucoup. C'est pareil en France. J'ai amené quelque chose de Géorgie. Donc, ça fera toujours partie de ma vie.
Et les publics sont différents ?
Oui. Le public est différent dans tous les pays. Mais à mon avis, je réfléchis rarement avant concert avec comment le public va réagir. Moi, je pense que même si parfois, par exemple en Scandinavie, le public est très... il ne montre pas trop ses émotions, mais à mon avis, il sent beaucoup. Donc si on entend une standing ovation en Finlande, on ne l'aura pas. Mais par contre, je sais et je l'avais appris que les gens, ils sentent vraiment la musique très, très forte. Si la musique, elle est forte, ils sont très touchés. Et ce qui compte à la fin, ce n'est pas ce qui vient vers nous, mais ce qu'on donne.
Comment vous voyez la situation actuelle aujourd'hui de l'univers de la musique classique, que ce soit au disque, on sait qu'il y a la crise du disque quand même d'une certaine manière, les concerts, tout ça, la façon dont dans les médias, la musique classique a peut-être moins d'audience qu'autrefois. Quel regard en tant que musicienne que vous portez sur la situation actuelle ? Est-ce que les temps sont difficiles ? Encore, vous, on pourrait dire, vous avez la chance d'être signée sur Deutsche Grammophon, qui est un label prestigieux, etc. Mais quel regard vous portez sur la situation aujourd'hui ?
Je pense que le problème, c'est que... Ouais, d'abord, je pense qu'il y a plus de concerts qu'avant. Alors, en général, il y a beaucoup plus d'opportunités pour les gens de faire des concerts. Avant, il n'y avait pas tant que ça. Et il y a beaucoup plus d'enregistrements. Donc, cette crise, elle était peut-être créée par le fait que, à mon avis, qu'on a essayé de populariser la musique classique un peu trop. Et moi, je vois ça un petit peu comme un problème parce que, évidemment, ce serait très important que beaucoup de monde écoute de la musique classique, mais la réalité, c'est que pas tout le monde est intéressé d'écouter de la musique classique. Et à mon avis, il faut pas complètement oublier le fait que la musique classique était quand même toujours quelque chose pour les gens qui avaient vraiment de l'intérêt, vraiment de l'amour pour ces genres de musique, et garder le niveau et garder un petit peu de classe. Parfois, j'ai simplement l'impression qu'on essaye de faire un petit peu tout pour devenir attractif pour le public qui n'a vraiment pas du tout d'expérience dans la musique classique, et les gens qui n'ont jamais été au concert, etc. Par contre, je trouve aussi qu'il n'y a pas assez d'éducation musicale dans les écoles. Donc, s'il y avait plus de soutien au début des élèves, même si c'est des gens qui font complètement autre chose dans leur vie, mais il y a beaucoup de soutien dans la musique pour connaître la musique classique, on n'aurait pas besoin de simplifier les choses pour faire comprendre à tout le monde et enregistrer toujours du Bach et du Vivaldi. Parce qu'il y a un moment où il faut vraiment... Moi, je me sens obligés de aussi proposer des choses un peu difficiles au public et les amener vers nous au lieu d'aller vers eux.
Est-ce que, justement, sur cet enseignement, vous voyez des grosses différences entre la Géorgie, l'Allemagne, la France, vous qui voyagez, est-ce que vous avez l'impression que, vous avez dit, les publics ne sont pas les mêmes, mais est-ce que ce que vous venez de décrire sur la façon dont la musique classique est traitée, et c'est la même chose partout, ou non, ça change vraiment d'un pays à un autre, vous avez l'impression?
Je pense que c'est plus ou moins partout, parce que c'est simplement la vie qui change. Et le temps qui change, on est tous sur Internet, on a vraiment changé les priorités dans la vie. Et évidemment, on ne peut pas vraiment se battre comme ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est un peu difficile de mettre la musique classique comme elle est dans cette vie très particulière, très technique. Mais j'espère que... déjà, je sens que dans les concerts, il y a toujours du public et ils sont toujours intéressés à venir aux concerts qui sont joués par les grands orchestres. Et là, on n'a pas perdu du public, non, pas du tout. Et il faut simplement continuer d'encourager les jeunes d'avoir ce respect pour la musique classique et aussi accepter que simplement la musique classique était toujours quelque chose pour pas tout le monde.
Et alors, quand il vous reste un peu de temps, quand vous n'êtes pas sur scène ou quand vous n'êtes pas en train d'ouvrir vos emails, qu'est-ce qui vous écoutez beaucoup de musique? Comment vous
non.
Avez, pas trop.
Non. Non, parce que quelque part, soit j'ai pas besoin de détente, ou quand on est musicien professionnel, c'est vraiment difficile d'écouter dans sa musique, dans son temps libre au corps de la musique, surtout parce que moi, j'ai deux enfants, donc je me range. Surtout dans une
musique
autre vie. éventuellement, quand il y a quelque chose d'intéressant, quand il y a une offre, certaines offres que je vais écouter, je le fais. Mais c'est pas, la musique, elle n'est pas tout le temps dans notre maison.
Vos projets, les prochains, la suite, qu'est-ce que vous avez envie d'enregistrer? Qu'est-ce que vous avez envie de jouer?
Moi, j'aimerais bien enregistrer dans les années prochaines les concertos de Bartok, les concertos de Brahms, les concertos de Schumann et... pas seulement des concertos, mais aussi de musique de chambre, de Schubert, par exemple. Peut-être le mélanger avec autre chose, on verra bien.
Ça fait pas mal de choses, déjà, tout ça.
Oui.
Sur scène et sur disque, et sur scène, est-ce que les prochains projets, les prochains concerts, qu'est-ce que vous...
Le prochain concert, c'est avec Concerto Beethoven à Philadelphie, la semaine prochaine. Et puis, avec l'orchestre de Minnesota, on jouera aussi à New York, donc Carnegie Hall, je me réjouis beaucoup. Et donc, les prochains 6 mois, j'ai des concerts, surtout aussi avec la Philharmonie de New York, où je joue aussi les concerts de Sibelius et Bartok, sur une tournée en Europe. Donc, ça fera une tournée de 3 semaines, qui est assez lourde. Et puis, en été, je ferai plus de musique de chambre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais jouer beaucoup, de rencontrer les collègues et les amis dans le monde musical qui sont vraiment très... C'est aussi pour moi très important de jouer avec ces gens-là pour nourrir un petit peu de la musique, partager la musique.
Bien, je rappelle donc que votre album chez Deutsche Grammophon s'appelle Echoes of Time. Merci, Elisa Bastiashvili.
Merci beaucoup.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.